Chapitre 3. Je débute mal dans le monde élégant. J'allais ce soir-là jusqu'à Carlow, où je descendis à la meilleure auberge, et lorsque mon nom me fut demandé par le maître de la maison, je donnai celui de Redmond, suivant les instructions de mon cousin, et dis que j'étais de la famille des Redmond du comté de Waterford, et en route pour le collège de la Trinité à Dublin, où j'allais faire mon éducation. Voyant ma bonne mine, mon épée à poignée d'argent et ma valise bien remplie, mon hôte se permit de m'envoyer un pot de claret sans que je l'eusse demandé, et, vous pouvez le croire, me le fit bel et bien payer dans sa note. Aucun gentilhomme, à cette bonne vieille époque, n'allait au lit sans s'être disposé au sommeil par de copieuses libations, et ce premier jour de mon entrée dans le monde, je me fis un point d'honneur d'agir en parfait gentilhomme. Et je réussis, je vous l'assure, à jouer mon rôle admirablement. L'excitation des événements de la journée, mon départ de chez nous, ma rencontre avec le capitaine Quinn, suffisaient pour me troubler la cervelle, sans le claret, qui servit à m'achever complètement. Je ne rêvais pas de la mort de Quinn, comme auraient peut-être fait quelques poules mouillées. Je n'ai même jamais eu de ces absurdes remords à la suite d'aucune de mes affaires d'honneur, ayant toujours considéré, dès la première, que lorsqu'un gentilhomme risque sa vie dans un mal combat, il serait stupide à lui d'être honteux d'avoir eu le dessus. Je dormis à Carlow aussi profondément qu'il est possible de dormir, pris un pot de petite bière et une rôtie à mon déjeuner, et changeai la première de mes pièces d'or pour régler mon compte, n'oubliant pas de payer tous les domestiques libéralement, et comme le doit faire un gentilhomme. Je commençai ainsi le premier jour de ma vie, et ainsi ai-je continué. Personne n'a été dans de plus grands embarras que moi, et n'a plus souffert de la pauvreté, mais personne ne peut dire de moi que lorsque j'avais une guinée, je n'en disposais pas largement, et que je ne la dépensais pas, aussi bien qu'un lord l'aurait pu faire. Je ne doutais pas de l'avenir, pensant qu'un homme de mon apparence, de mon mérite et de mon courage, pourrait faire son chemin n'importe où. D'ailleurs, j'avais 20 guinées en poche, somme que je calculais, bien à tort, devoir me durer 4 mois au moins, et d'ici là il m'arriverait bien quelques moyens de faire fortune. Je repartis donc, chantant tour à tour ou causant avec les passants, et toutes les filles sur la route disaient « Bonté divine, voilà un charmant gentilhomme !» Quant à Nora et à Castle Brady, entre hier et aujourd'hui, il semblait y avoir au moins 10 années d'intervalle. Je fis vœu de n'y jamais rentrer que quand je serais un personnage, et j'ai tenu parole, comme on le verra en temps et lieu. Il y avait plus de mouvement et de vie sur la grande route, à cette époque, que dans nos jours de voitures publiques qui vous emportent d'un bout du royaume à l'autre en quelques 20 heures. On allait sur des chevaux ou dans des carrosses, et on mettait 3 jours à faire un voyage qui maintenant demande 10 heures. En sorte qu'une personne qui se rendait à Dublin ne manquait pas de compagnie. Je fis une partie du trajet de Carlow à Naas, avec un gentilhomme de Kilkenny, bien armé, en habit vert à gants d'or, un emplâtre sur l'œil, et montant une vigoureuse jument. Il me questionna sur les nouvelles du jour, me demanda où j'allais, et si ma mère n'avait pas peur des voleurs, qu'elle laissait voyager ainsi un jeune homme de mon âge. Mais je répondis, tout en tirant un d'une fente, que j'avais une paire de bons pistolets qui avaient déjà fait leur devoir et qui étaient prêts à le faire encore. Et là-dessus, un homme marqué de la petite vérole étant arrivé, il éperonna sa jument baie et me quitta. C'était une bête bien plus vigoureuse que la mienne, et d'ailleurs, je ne voulais pas fatiguer mon cheval, désirant entrer à Dublin ce soir-là et en un état décent. Comme j'allais vers Killeen, je vis une foule de paysans assemblés autour d'une chaise à un cheval, et mon ami en vert d'étalant, à ce qu'il me sembla, est déjà à 1/2 mile sur la colline. Un laquais, de toute sa voix, criait « Ô voleur !» Mais les gens du pays ne faisaient que rire de sa détresse et échangeaient toutes sortes de plaisanteries sur l'aventure qui venait d'arriver. « Vraiment, vous auriez pu le tenir à distance, avec votre espingole, » disait un d'entre eux. « Ô le poltron !» Vous laissez mater par le capitaine, lui qui n'a qu'un œil, disait un autre. La première fois que Milady voyagera, elle fera mieux de vous laisser à la maison, dit un troisième. « Quel est ce bruit, braves gens ? » dis-je, en m'avançant au milieu d'eux. Et voyant dans la voiture une dame très pâle et effrayée, je jouai du fouet et ordonnai à ces drôles aux jambes rouges de se tenir à l'écart. « Qu'est-il arrivé, madame, de fâcheux à votre seigneurie ? » dis-je, ôtant mon chapeau et faisant avancer mon cheval en caracolant à la portière de la chaise. La dame m'expliqua la chose. Elle était femme du capitaine Fitzsimons et se hâtait de rejoindre son mari à Dublin. Un voleur avait arrêté sa chaise. Son grand idiot de domestique était tombé à genoux, tout armé qu'il était. Et quoiqu'il y eût dans le champ voisin une trentaine d'hommes qui travaillaient quand le brigand l'avait attaqué, pas un d'eux n'était venu à son secours, mais au contraire, ils avaient souhaité bonne chance au capitaine, comme ils appelaient le voleur. « Certainement, il est l'ami du pauvre, » dit un homme. « Et je lui souhaite en bonne chance. »« Est-ce que c'était notre affaire ?» demanda un autre. Et un autre dit, en riant, que c'était le fameux capitaine Freeney, qui, ayant gagné le jury et s'étant fait acquitter il y avait 2 jours aux assises de Kilkenny, était remonté à cheval à la porte de la prison et le lendemain même avait dévalisé 2 avocats qui se rendaient aux assises. J'enjoignis à ce tas de gredins de retourner à leur ouvrage, sans quoi ils tâteraient de ma lanière, et je me mis à consoler de mon mieux Mrs. Fitzsimons de ses infortunes. Avait-elle beaucoup perdu ? Tout. Sa bourse contenant plus de 100 guinées, ses bijoux, ses tabatières, ses montres, et une paire de boucles de souliers en diamant appartenant au capitaine. Je pris sincèrement part à sa mésaventure, et la reconnaissant pour anglaise à son accent, je déplorai la division qui existait entre les 2 pays, et dis que dans le nôtre, entendant l'Angleterre, de pareilles atrocités étaient inconnues. « Vous aussi, vous êtes anglais ? » dit-elle d'un ton de surprise, sur quoi je répondis que j'étais fier de l'être, comme en effet je l'étais. Et je n'ai jamais connu un vrai gentilhomme tory d'Irlande qui n'ait souhaité d'en pouvoir dire autant. J'escortai la chaise de Mrs. Fitzsimons jusqu'à Naas, et comme on lui avait volé sa bourse, je lui demandai la permission de lui prêter une couple de pièces d'or pour payer sa dépense à l'auberge, laquelle somme elle daigna gracieusement accepter, et elle fut en même temps assez bonne pour m'inviter à partager son dîner. Aux questions de la dame sur ma naissance et ma parenté, je répondis que j'étais un jeune gentilhomme de grande fortune. Ce n'était pas vrai, mais à quoi sert de crier « mauvais poisson » ? Ma chère mère m'avait enseigné de bonheur cette sorte de prudence, et de bonne famille du comté de Waterford. Que j'allais à Dublin pour mes études, et que ma mère m'allouait 500 livres par an. Mrs. Fitzsimons fut également communicative. Elle était fille du général Granby Somerset, du Worcestershire, dont naturellement j'avais entendu parler, et quoique cela ne fût pas, naturellement j'étais trop bien élevé pour le dire. Et elle confessa que, pour se marier, elle s'était fait enlever par l'enseigne Fitzgerald Fitzsimons. Avais-je été dans le Donegal ? Non, c'était dommage. Le père du capitaine y possède 100 000 acres de terre, et le château de Fitzsimonsburg est le plus beau manoir de l'Irlande. Le capitaine Fitzsimons est le fils aîné, et quoique brouillé avec son père, il doit hériter de cette vaste propriété. Elle se mit à me parler ensuite des bals de Dublin, des banquets du château, des courses de chevaux du Phoenix, des ridotos et des raouts. Si bien que je fus pris d'une grande envie de goûter ces plaisirs, et mon seul regret était de penser que ma position me rendrait la réclusion nécessaire et m'empêcherait d'être présenté à la cour, dont les Fitzsimons étaient le plus bel ornement. Quelle différence de son babil animé à celui de ses filles vulgaires des assemblées de Kilwangan. À chaque phrase, elle citait un lord ou une personne de qualité. Évidemment, elle parlait le français et l'italien. Quant à la première de ces 2 langues, j'ai dit que j'en connaissais quelques mots. Et quant à son accent anglais, peut-être n'en étais-je pas juge, car, pour dire la vérité, elle était la première personne réellement anglaise que j'eusse jamais rencontrée. Elle me recommanda, après cela, d'être très circonspect relativement à la compagnie que je verrais à Dublin, qui abondait en coquins et en aventuriers de tout pays. Et on peut s'imaginer ma joie et ma reconnaissance envers elle lorsque, notre entretien étant devenu plus intime, Nous étions alors au dessert. Elle voulut bien m'offrir de loger chez elle, où son Fitzsimons, dit-elle, serait heureux d'accueillir son jeune et vaillant sauveur. « Vraiment, madame, dis-je, je ne vous ai sauvé de rien, ce qui était parfaitement vrai, car n'étais-je pas arrivé trop tard après le vol pour empêcher le bandit d'emporter son argent et ses perles ?»« Et ma foi, madame, c'était pas grand-chose, » dit maladroitement Sullivan, le domestique qui avait été effrayé à l'approche de Freeney et qui nous servait à dîner. « Ne vous a-t-il pas rendu les 13 pence en cuivre et la montre en disant que ce n'était que du chrysocale ?» Mais sa maîtresse le traita d'impertinent drôle et le renvoya aussitôt de la chambre, me disant, lorsqu'il fut parti, que le sot ne savait pas la valeur d'un billet de 100 livres qui était dans le portefeuille que Freeney lui avait pris. Peut-être si j'avais eu un peu plus d'expérience du monde, j'aurais commencé à voir que Madame Fitzsimons n'était pas la personne de qualité qu'elle prétendait être. Mais, enfin, je pris toutes ces histoires pour des vérités, et quand l'hôte apporta la note du dîner, je le payai d'un air de grand seigneur. Du reste, elle ne fit aucunement mine de tirer de sa poche les 2 pièces que je lui avais prêtées. Et là-dessus, nous nous mîmes en route lentement pour Dublin, où nous fîmes notre entrée au tombé de la nuit. Le bruit et la splendeur des carrosses, l'éclat des torches, le nombre et la magnificence des maisons me frappèrent de l'admiration la plus vive. Quoique j'eusse soin de déguiser ce sentiment, conformément aux instructions de ma mère, qui me dit que c'était la marque d'un homme de qualité de ne s'émerveiller de rien et de ne jamais admettre qu'aucun équipage, maison ou compagnie qu'il pût voir, fût plus splendide ou plus distingué que ce dont il avait l'habitude chez lui. Nous nous arrêtâmes, enfin, à une maison de piètre apparence et fûmes introduits dans un passage beaucoup moins propre que celui de Barryville, où l'on sentait une forte odeur de souper et de punch. Un gros homme à face rouge, sans perruque et en robe de chambre et bonnet en loques, sortit du parloir et embrassa sa femme, car c'était le capitaine Fitzsimons, avec beaucoup de cordialité. Le fait est que lorsqu'il vit qu'elle était accompagnée d'un étranger, il l'embrassa avec plus de transport qu'auparavant. En me présentant, elle persista à dire que j'étais son sauveur et fit l'éloge de ma bravoure comme si j'eusse tué Freeney au lieu d'arriver quand le vol était consommé. Le capitaine dit connaître intimement les Redmond de Waterford, assertion qui m'alarma, car je ne savais rien de la famille à laquelle j'avais déclaré appartenir. Mais je l'embarrassai en lui demandant lequel des Redmond il connaissait, car je n'avais jamais entendu prononcer son nom dans notre famille. Il répondit qu'il connaissait les Redmond de Redmondstown. « Oh, dis-je, les miens sont les Redmond de Castle Redmond. » Et ainsi je lui fis perdre la piste. J'allais mettre mon cheval en pension dans une écurie tout près de là, où étaient le cheval et la chaise du capitaine, et je revins trouver mon hôte. Quoiqu'il y eut un reste de côtelettes de mouton aux oignons sur un plat ébréché devant lui, le capitaine dit « Mon amour, je voudrais avoir su votre arrivée, car Bob Marriott et moi, nous venons justement de finir le plus délicieux pâté de venaison que sa grâce le Lord Lieutenant nous a envoyé avec un flacon de céleri de sa propre cave. Vous connaissez ce vin, ma chère. Mais comme ce qui est fait, et sans remède, que dites-vous d'un beau homard et d'une bouteille d'aussi bon claret qu'il y en est en Irlande ? Betty, débarrassez la table de ceci et veillez à bien recevoir votre maîtresse et notre jeune ami. » N'ayant pas de monnaie, M. Fitzsimons me demanda de lui prêter 20 sous pour acheter un plat de homard. Mais sa femme, tirant une des guinées que je lui avais données, dit à la fille de changer cela et de se procurer à souper, ce qu'elle fit présentement, ne rapportant à sa maîtresse que très peu de shillings sur la guinée, attendu que le marchand de poissons avait gardé le reste pour un vieux compte. « Et vous n'en êtes qu'une plus grosse bête de lui avoir donné la pièce d'or !» cria M. Fitzsimons. J'oublie combien de centaines de guinées il dit avoir payé à ce drôle dans le cours de l'année. Notre souper fut assaisonné, sinon par une grande élégance, du moins par une foule d'anecdotes sur les plus hauts personnages de la ville, avec lesquels, à l'en croire, le capitaine vivait sur le pied de la plus grande intimité. Pour ne pas rester en arrière, je parlais de mes terres et de ma fortune comme si j'étais aussi riche qu'un duc. Je lui racontais tout ce que je savais d'histoire sur la noblesse, par ma mère, et quelques autres encore que, peut-être, j'avais inventés. Et j'aurais dû m'apercevoir que mon hôte était lui-même un imposteur, puisqu'il ne découvrait pas mes bévues et mes inexactitudes. Mais la jeunesse est toujours trop confiante. Je fus quelque temps avant de reconnaître que je n'avais pas une très désirable connaissance en la personne du capitaine Fitzsimons et de sa femme. Et même j'allais me coucher en me félicitant de ma merveilleuse chance d'être tombé, au début de mes aventures, sur un couple si distingué. L'aspect de la chambre que j'occupais aurait bien pu me faire imaginer que l'héritier du château de Fitzsimonsburg, comté de Donegal, n'était pas encore réconcilié avec ses riches parents. Et si j'avais été anglais, il est probable que mes soupçons et ma méfiance se seraient éveillés immédiatement. Mais, comme le lecteur le sait peut-être, nous ne sommes pas si difficiles en Irlande qu'on l'est dans ce pays formaliste. Le désordre de ma chambre à coucher ne me frappa donc pas tant, car les fenêtres n'étaient-elles pas toutes brisées et bourrées de chiffons à Castlebrady et même, ce superbe manoir de mon oncle? S'y trouvait-il une serrure aux portes, ou un bouton à la serrure, ou un crochet pour les attacher? Aussi, quoique ma chambre à coucher présentât ses inconvénients, et quelques autres encore, quoique ma courte pointe fût évidemment une robe de brocart toute graissée de Mrs. Fitzsimons, et que mon miroir cassé ne fût pas plus grand qu'une demi-couronne, cependant j'étais accoutumé à ces sortes de choses dans les maisons irlandaises, et je me croyais toujours dans celle d'un homme de qualité. Il n'y avait pas de serrure au tiroir qui, lorsqu'il s'ouvrait, était plein des pots de rouge, des souliers, des corsets et des chiffons de mon hôtesse. En sorte que je laissais ma garde-robe dans ma valise. Mais j'étalais mes objets de toilette en argent sur la nappe en lambeaux qui couvrait la commode, où ils avaient une mine admirable. Quand Sullivan parut le matin, je lui demandai des nouvelles de ma jument, qu'il m'assura être en bonne santé. Je lui dis alors d'un ton digne de m'apporter de l'eau chaude pour ma barbe. « De l'eau chaude pour votre barbe ? » dit-il en éclatant de rire, et je l'avoue non sans raison. « Est-ce vous que vous allez raser ? » dit-il. « Et peut-être bien qu'en vous apportant de l'eau, je dois vous apporter aussi le chat, et que c'est lui que vous raserez. » Je lançai une botte à la tête du drôle en réponse à son impertinence, et je fus bientôt au parloir où mes amis m'attendaient pour déjeuner. J'eus un accueil cordial et vis la même nappe qui avait servi la veille, comme je le reconnus à la marque noire qu'avait laissé le plat de côtelettes et à la tâche faite par le pot de porter. Mon hôte me fit beaucoup d'amitié. Mrs. Fitzsimons dit que je figurerais merveilleusement au parc du Phoenix. Et vraiment, sans vanité, je puis dire de moi-même qu'il y avait à Dublin des gens de moins bonne mine. Je n'avais pas la puissante poitrine et les proportions musculaires que j'ai eues depuis, pour les échanger, hélas, contre des jambes goûteuses et de la craie dans mes doigts, mais ainsi va le monde. Toutefois, j'étais presque arrivé à mes 5 pieds 6 pouces actuels, et avec mes cheveux en boucle, un jabot et des manchettes de belles dentelles à ma chemise, et une veste de peluche rouge à raies d'or, j'avais l'air du gentilhomme que j'étais. Je portais mon habit noisette à boutons de métal, qui était devenu trop petit pour moi, et je tombais tout à fait d'accord avec le capitaine Fitzsimons que je devais rendre visite à son tailleur afin de m'en procurer un qui alla mieux à ma taille. « Je n'ai pas besoin de vous demander si vous avez eu un bon lit, » dit-il. Le jeune Fred Pimpleton, le second fils de Lord Pimpleton, y a couché les 7 mois qu'il m'a fait l'honneur de demeurer avec moi, et s'il a été satisfait, je ne sais pas qui pourrait ne pas l'être. Après le déjeuner, nous sortîmes pour voir la ville, et M. Fitzsimons me présenta à plusieurs de ses connaissances que nous rencontrâmes, comme son ami particulier, M. Redmond, du comté de Waterford. Il me présenta aussi à son chapelier et à son tailleur, comme un gentilhomme qui avait une fortune considérable et de grandes espérances. Et quoique j'eusse dit à ce dernier que je ne lui payerais pas comptant plus d'un habit, lequel m'allait à la perfection, il insista pour m'en faire plusieurs, que je n'aimais point à refuser. Le capitaine aussi, qui certainement avait besoin de renouveler sa garde-robe, dit au tailleur de lui envoyer un bel habit d'uniforme qu'il avait choisi. Alors nous allâmes retrouver au logis Mrs. Fitzsimmons, qui alla dans sa chaise au Phoenix Park, où on passait une revue, et où elle fut entourée d'une foule de jeunes gentilshommes, auxquels elle me présenta comme son sauveur. Elle s'exprimait sur mon compte dans des termes si flatteurs qu'avant une demi-heure, j'en étais venu à être considéré comme un jeune homme de la plus grande famille du pays, apparenté à toute la principale noblesse, cousin du capitaine Fitzsimmons et héritier de 10 000 livres sterling de rente. Fitzsimmons dit avoir parcouru à cheval mon domaine d'un bout à l'autre. Et ma foi, comme il lui avait plu de faire ses histoires pour moi, je le laissais faire. Et même je n'étais pas médiocrement satisfait, comme le sont les jeunes gens, de l'importance qu'on me donnait et de passer pour un grand personnage. Je ne soupçonnais guère alors que j'étais au milieu d'un tas d'imposteurs, que le capitaine Fitzsimmons n'était qu'un aventurier et sa femme fort peu de chose. Mais tels sont les dangers auxquels la jeunesse est perpétuellement exposée et que les jeunes gens prennent leçon de moi. Je passe rapidement à dessein sur le récit de cette partie de ma vie où les incidents sont pénibles, sans grand intérêt, excepté pour votre infortuné serviteur, et où mes compagnons n'étaient assurément pas d'une espèce qui convainc à ma qualité. Le fait est qu'un jeune homme pouvait difficilement tomber dans des mains pires que celles où je me trouvais. J'ai été depuis dans le Donegal, et je n'ai jamais vu le fameux château de Fitzsimmonsburg, qui est également inconnu aux plus anciens habitants de ce comté. Et les Granby Somerset ne sont guère mieux connus dans le Hampshire. Le couple aux mains de qui j'étais tombé était d'une espèce beaucoup plus commune qu'elle ne l'est aujourd'hui, car les guerres considérables des derniers temps ont rendu fort difficile aux laquais et aux parasites des grands seigneurs de se procurer des commissions. Et telle avait été, par le fait, dans le principe, la condition du capitaine Fitzsimmons. Si j'eusse connu son origine, comme de raison, je serais plutôt mort que de frayer avec lui. Mais, dans la simplicité de ma jeunesse, je pris ces histoires pour argent comptant et me regardais comme trop heureux d'être, à mon début dans la vie, introduit dans une telle famille. Hélas, nous sommes le jouet de la destinée. Quand je considère quelles petites circonstances ont décidé tous les grands événements de ma vie, j'ai peine à croire que j'ai été autre chose qu'un pantin aux mains du sort qui m'a joué les tours les plus fantasques. Le capitaine avait été valet de chambre et sa femme n'était pas d'un rang plus élevé. La société que voyait ce digne couple, il la voyait à une espèce de table d'hôte qu'il tenait et où ses amis étaient toujours les bienvenus en payant pour leur dîner une certaine somme assez modeste. Après le dîner, vous pouvez être sûr que les cartes ne manquaient pas et que la compagnie qui jouait là ne jouait pas simplement pour l'honneur. Des gens de toutes sortes venaient à ces soirées. De jeunes élégants des régiments en garnison à Dublin, de jeunes commis du château, des hommes de la grande mode, grands monteurs de chevaux, grands videurs de flacons, grands rosseurs de watchmen, tels qu'il en existait alors à Dublin, plus qu'en aucune autre ville d'Europe à ma connaissance. Je n'ai jamais vu de jeunes gens faire une telle figure et avec si peu de moyens. Je n'ai jamais vu de jeunes gens pousser à tel point ce que je puis appeler le génie de l'oisiveté. Et tandis qu'un Anglais, avec 50 guinées par an, n'est guère capable que de crever de faim et de travailler comme un esclave à une profession, un jeune mirliflore irlandais, avec la même somme, aura ses chevaux, boira sa bouteille de vin et vivra aussi paresseux qu'un lord. Il y avait là un docteur qui n'avait jamais eu un malade, côte à côte avec un procureur qui n'avait jamais eu un client. Pas un d'eux n'avait une guinée. Chacun d'eux avait un bon cheval à monter dans le parc et les meilleurs habits sur le dos. Un ecclésiastique sans bénéfice, grand amateur de sport, plusieurs jeunes négociants en vin qui consommaient plus de liquide qu'ils n'en avaient ou n'en vendaient. Et des gens du même acabit formaient la société de la maison où ma mauvaise étoile m'avait jeté. D'une telle compagnie pouvait-il arriver autre chose que des malheurs? Je n'ai pas parlé des femmes qui ne valaient peut-être pas mieux que les hommes. En peu de temps, très peu de temps, je devins leur proie. Quant à mes pauvres 20 guinées, au bout de 3 jours, je vis à mon grand effroi qu'elles étaient réduites à 8. Les théâtres et les tavernes avaient déjà fait de si cruels ravages dans ma bourse. J'avais perdu au jeu, il est vrai, une couple de pièces, mais voyant que chacun autour de moi jouait sur l'honneur et faisait des billets, comme de raison, j'aimais mieux cela que de donner l'argent comptant, et quand je perdais, je payais de cette manière. Avec les tailleurs, celliers et autres, j'employais le même moyen, et en cela, du moins, l'idée qu'avait donnée de moi M. Fitzsimmons me fit du bien, car les marchands le crurent sur parole au sujet de ma fortune. J'ai su depuis que le gredin plumait plusieurs autres jeunes gens riches, et pour un peu de temps, ils me fournirent tout ce qu'il me plaisait de leur commander. À la fin, mes fonds étant très bas, je fus forcé de mettre en gage quelques-uns des habits que le tailleur m'avait faits. Car je n'aimais pas à me défaire de ma jument, sur laquelle j'allais chaque jour au parc, et à laquelle je tenais comme m'ayant été donnée par mon cher oncle. Je me procurai aussi un peu d'argent, à l'aide de quelques bijoux que j'avais achetés d'un joaillier qui avait voulu à toute force me faire crédit, et je pus encore ainsi pour quelque temps sauver les apparences. Je demandai souvent à la poste des lettres pour M. Redmond, mais il n'y en avait point, et ma foi, je me sentais toujours plutôt soulagé quand on me répondait que non, car je n'étais pas très désireux que ma mère apprît la vie extravagante que je menais à Dublin. Cette vie ne pouvait pas durer longtemps, toutefois, car lorsque ma bourse fut tout à fait épuisée, et que je rendis une seconde visite au tailleur pour lui demander de me faire d'autres habits, le drôle grommela, s'étonna, et eut l'impudence de me demander le paiement de ceux qu'il m'avait déjà fournis. Sur quoi, lui disant que je lui retirerais ma pratique, je le quittai brusquement. Le joaillier aussi, un gueux de juif, refusa de me laisser emporter une chaîne d'or dont j'avais fantaisie, et je me trouvai pour la première fois dans un certain embarras. Pour surcroît d'ennui, un des jeunes gentilshommes qui fréquentait la pension de M. Fitzsimmons avait reçu de moi, au jeu, un billet de 18 livres qu'il m'avait gagné au piquet, et il l'avait donné en paiement à M. Kirbin, l'homme qui gardait nos chevaux en pension. Figurez-vous ma fureur et mon étonnement lorsqu'en allant chercher ma jument, il refusa positivement de la laisser sortir de l'écurie avant que j'eusse fait honneur à ma signature. C'est en vain que je lui offris le choix entre 4 billets que j'avais dans ma poche, un de Fitzsimmons pour 20 livres, un du conseiller Mulligan, etc. Notre homme, qui était du Yorkshire, secoua la tête, rit à chacun d'eux et dit « Écoutez bien, monsieur Redmond, vous paraissez un jeune homme de naissance et de fortune, et laissez-moi vous dire à l'oreille que vous êtes tombé dans de très mauvaises mains. C'est une véritable bande d'escrocs, et un gentilhomme de votre rang et de votre qualité ne devrait jamais être vu en pareille compagnie. Rentrez faire vos valises, payez la petite bagatelle que vous me devez, montez sur votre jument et retournez chez vos parents. C'est le mieux que vous puissiez faire. » Effectivement, j'étais plongé dans un joli repère. On eût dit que toutes les infortunes allaient m'accabler à la fois, car comme je rentrais et montais à ma chambre dans un état de désolation, j'y trouvais le capitaine et sa femme, ma valise ouverte, ma garde-robe gisant sur le plancher et mes clés en la possession des odieux Fitzsimmons. « Qui ai-je abrité sous mon toit ? » cria-t-il comme j'entrais. « Qui êtes-vous, drôle ?»« Drôle, monsieur, dis-je, je suis aussi bon gentilhomme que personne en Irlande. Vous êtes un imposteur, jeune homme, un intrigant, un fourbe, » repartit le capitaine. « Répétez ce que vous venez de dire, et je vous passe mon épée au travers du corps, » répliquai-je. « Ta, 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 je suis aussi fort à l'escrime que vous, monsieur Redmond Barry. » « Ah, vous changez de couleur. Votre secret est connu, pas vrai ? Vous vous introduisez comme une vipère au sein d'innocentes familles. Vous vous annoncez comme l'héritier de mes amis les Redmond de Castle Redmond. Je vous présente à tout ce que nous avons de mieux dans la métropole. Je vous mène chez mes fournisseurs qui vous font crédit. Et qu'est-ce que je découvre ? Que vous avez mis en gage les objets que vous avez pris chez eux. Je leur ai fait des billets, monsieur, dis-je d'un air digne. « Sous quel nom, malheureux enfant, sous quel nom ? » cria Mrs. Fitzsimmons. Et alors, en effet, je me rappelais que j'avais signé Barry Redmond au lieu de Redmond Barry. Mais pouvais-je faire autrement? Ma mère ne m'avait-elle pas recommandé de ne prendre aucune autre désignation? Après une furieuse tirade contre moi, dans laquelle il parla de la fatale découverte de mon nom sur mon linge, de sa confiance et de son affection si mal placée, et de la honte qu'il aurait à rencontrer ses fashionables amis et à confesser qu'il avait accueilli un escroc, il ramassa mon linge, mes objets de toilette en argent et le reste de mes effets, disant qu'il allait de ce pas chercher un officier de police et me livrer à la juste vengeance des lois. Durant la première partie de son discours, la pensée de l'imprudence que j'avais commise et de la position où je me trouvais m'avait tellement abasourdi que je n'avais rien répondu aux injures de ce drôle et était resté tout à fait muet devant lui. Le sentiment du danger, toutefois, me rappela à moi-même. « Écoutez bien, monsieur Fitzsimons, dis-je, je vais vous dire pourquoi j'ai été obligé de changer mon nom, qui est effectivement Barry et le meilleur nom d'Irlande. Je l'ai changé, monsieur, parce que la veille de mon arrivée à Dublin, j'avais tué un homme dans un duel à mort, un Anglais, monsieur, et capitaine au service de Sa Majesté. Et si vous faites mine le moins du monde de me retenir, ce même bras qui l'a tué est prêt à vous punir. Et par le ciel, monsieur, l'un de nous deux ne sortira pas vivant de cette chambre. » À ces mots, je tirai mon épée comme l'éclair, et poussant un « ha ha » et frappant du pied, je me fendis à un pouce du cœur de Fitzsimons, qui recula, pâle comme la mort, tandis que sa femme, avec un cri, se jetait entre nous. « Cher Redmond, dit-elle, apaisez-vous. Fitzsimons, vous ne voulez pas verser le sang de ce pauvre enfant. Laissez-le partir, au nom du ciel, laissez-le partir. » « Il peut aller se faire pendre ailleurs, dit Fitzsimons d'un ton bourru, et il fera bien de partir au plus vite, car le joaillier et le tailleur sont déjà venus, et ils seront ici avant peu. C'est Moïse, le prêteur sur gage, qui l'a dénoncé. C'est de lui que je tiens moi-même la nouvelle. » D'où je conclus que M. Fitzsimons avait été lui porter l'uniforme qu'il s'était procuré chez le tailleur le jour où ce dernier m'avait fait pour la première fois crédit. À quoi aboutissait notre conversation? Où trouver un asile pour le descendant des Barry? Notre maison m'était fermée par ce malheureux duel. J'étais expulsé de Dublin par une persécution dont je devais, j'en conviens, accuser ma propre imprudence. Je n'avais pas de temps à perdre pour me décider. Pas de lieu où me réfugier. Fitzsimons, après m'avoir traité comme on l'a vu, avait quitté la chambre en grommelant, mais sans hostilité. Sa femme avait insisté pour nous faire donner la main et pour qu'il promît de ne pas me tourmenter. Le fait est que je ne devais rien à cet homme. Au contraire, j'avais en poche un billet de lui pour argent perdu au jeu. Quant à mon amie, Mrs. Fitzsimons, éclata en sanglots bel et bien. Elle avait ses défauts, mais le cœur était bon. Et quoiqu'elle n'eût au monde que 3 shillings en argent et 4 pence en cuivre, la pauvre âme me les fit prendre avant de la quitter. Pour aller où? Mon parti était arrêté. Il y avait une 20aine de compagnies de recrutement dans la ville qui racolaient des âmes pour rejoindre nos vaillantes armées d'Amérique et d'Allemagne. Je savais où en trouver une, m'étant trouvé à côté du sergent à une revue au parc du Phoenix, où il m'avait indiqué les personnages intéressants à connaître, en reconnaissance de quoi je lui avais payé à boire. Je donnai un de mes shillings à Sullivan, le maître d'hôtel des Fitzsimons, et gagnant précipitamment la rue, je courus à une petite taverne où logeait ma connaissance, et avant 10 minutes, j'avais accepté le shilling de Sa Majesté. Je lui racontai franchement que j'étais un jeune gentilhomme dans l'embarras, que j'avais tué un officier en duel et que j'étais pressé de sortir du pays. Mais j'aurais pu ne pas me mettre en frais d'explication. Le roi George avait trop besoin d'hommes pour s'informer d'où il venait, et un gaillard de ma taille, dit le sergent, était toujours le bienvenu. Vraiment, je ne pouvais pas, dit-il, mieux choisir mon temps. Un bâtiment de transport était à l'ancre à Dunleary, attendant un vent favorable, et à bord de ce vaisseau, où je me rendis le soir même, je fis des découvertes surprenantes qui seront rapportées dans le prochain chapitre. chapitre 4, dans lequel Barry voit de près la gloire militaire. Je n'ai jamais eu de beau que pour la bonne compagnie, je hais toute description des mœurs vulgaires. Le compte que j'ai à rendre de la société où je me trouvais alors doit nécessairement être court, et la mémoire m'en est même profondément désagréable. Pouah ! Le souvenir de l'horrible trou où nous autres soldats étions confinés, des misérables avec lesquels nous étions forcés de vivre, des garçons de charrue, des braconniers, des filous qui étaient venus chercher là un refuge contre la pauvreté ou contre la justice, comme à vrai dire j'avais fait moi-même, suffit pour faire rougir, même à présent, mes vieilles joues. Je serais tombé dans le désespoir si heureusement il n'était survenu des événements de nature à relever mes esprits et à me consoler jusqu'à un certain point de mes infortunes. La première de ces consolations fut une bonne querelle que j'eus le lendemain de mon entrée sur le bâtiment de transport avec un gros monstre à cheveux roux, un porteur de chaise qui s'était enrôlé pour fuir son dragon de femme qui, tout boxeur qu'il était, avait été trop forte pour lui. Aussitôt que le drôle, Toole était son nom, je me rappelle, fut hors des griffes de sa femme, la blanchisseuse, son courage et sa férocité naturelle lui revinrent et il tyrannisa tout ce qui était autour de lui. Toutes les recrues, spécialement, étaient l'objet des insultes et des mauvais traitements de cette brute. Je n'avais pas d'argent, comme j'ai dit, et j'étais assis très désolé devant une gamelle de lard rance et de biscuits moisis, quand, mon tour étant venu, on me servit, comme aux autres, un sale pot d'étain contenant un peu plus d'une demi-pinte d'eau et de rhum. Le pot était si gras et si malpropre que je ne pus m'empêcher de me tourner vers l'homme qui l'apportait et de lui dire « Camarade, donnez-moi un verre !» Sur quoi tous ces misérables qui étaient autour de moi éclatèrent de rire, le plus bruyant d'entre eux étant, comme de raison, M. Toole. « Apportez à monsieur une serviette pour ses mains et servez-lui une écuelle de soupe à la tortue !» beugla le monstre, qui était assis ou plutôt accroupi sur le pont en face de moi. Et, comme il parlait, il saisit soudain mon pot de grog et le vida au milieu d'un tonnerre d'applaudissements. « Si vous voulez le vexer, demandez-y des nouvelles de sa femme, la blanchisseuse, qui le bat, » me souffla à l'oreille un autre digne personnage, un porteur de torche retiré, qui, dégoûté de sa profession, avait adopté la vie militaire. « Est-ce une serviette blanchie par votre femme, monsieur Toole ?» dis-je. « J'entends dire qu'elle en avait une avec laquelle elle vous frottait souvent le visage. » « Demandez-y pourquoi il n'a pas voulu la voir hier quand elle est venue à bord, » continua le porteur de torches. Et je lui fis plusieurs mauvaises plaisanteries sur les savons qu'elle lui donnait et la manière dont elle lui lavait la tête, qui mirent notre homme en fureur et réussirent à provoquer une querelle entre nous. Nous l'aurions vidé sur le champ, mais une couple de soldats de marine, qui, tout en riant de nous entendre, montait la garde à la porte, de crainte que le repentir de notre marché ne nous donnât l'envie de nous échapper, s'avancèrent et s'interposèrent entre nous la baïonnette au bout du fusil. Et le sergent, descendant de l'échelle et informé de la dispute, daigna dire que nous pouvions nous battre des poings si nous voulions, et que le gaillard d'avant serait à notre disposition pour cela. Mais l'usage des poings, comme le disait cet Anglais, n'était pas général alors en Irlande. Et il fut convenu que nous aurions une paire de gourdins, avec l'un desquels j'expédiais mon homme, en 4 minutes, lui assénant sur son stupide crâne un coup qu'il étendit sans vie sur le pont, sans en avoir reçu moi-même aucun de conséquence. Cette victoire sur le coq de ce vil fumier me valut la considération des misérables dont je faisais partie et servit à remonter mes esprits qui, sans cela, s'affaissaient. Et ma position devint bientôt plus supportable par l'arrivée à bord d'un ancien ami. Ce n'était autre que mon second dans le fatal duel qui m'avait lancé de si bonne heure dans le monde, le capitaine Fagan. Il y avait un jeune seigneur qui avait une compagnie dans notre régiment, les Fantassins de Gale, et qui, préférant les plaisirs du mail et des clubs aux dangers d'une rude campagne, avait fourni à Fagan l'occasion d'un échange qu'il avait été heureux de faire, n'ayant point d'autre fortune que son épée. Le sergent nous faisait faire l'exercice sur le pont en vue des officiers et soldats de marine qui nous regardaient en riant, lorsqu'un bateau arriva du rivage, amenant notre capitaine à bord, et quoique j'eusse tressailli et rougi lorsqu'il reconnut un descendant des Barry dans cette position dégradante, je vous promets que la vue de Fagin me fit grand plaisir, car elle m'assurait que j'avais un ami près de moi. Avant cela, j'étais si triste que j'aurais certainement déserté si j'en eusse trouvé le moyen et que les inévitables soldats de marine n'eussent pas été aux aguets pour empêcher ces sortes d'évasions. Fagin me fit de l'œil un signe d'intelligence, mais ne laissa point voir publiquement qu'il me connaissait, et ce ne fut que 2 jours après, et lorsque nous eûmes dit adieu à la vieille Irlande et que nous étions en pleine mer, qu'il m'appela dans sa cabine. Et alors, me secouant cordialement la main, il satisfit le besoin que j'avais d'avoir des nouvelles de ma famille. « J'ai eu de vos nouvelles à Dublin, dit-il. Ma foi, vous avez commencé de bonne heure, comme le fils de votre père, et je ne pense pas que vous eussiez de meilleurs partis à prendre que celui que vous avez pris. Mais pourquoi n'avoir pas écrit à votre pauvre mère? Elle vous a adressé 12 de lettres à Dublin. » Je répondis que j'avais demandé des lettres à la poste, mais qu'il n'y en avait pas pour M. Redmond. Je ne me souciais pas d'ajouter qu'après la première semaine, j'avais été honteux d'écrire à ma mère. « Il faut lui écrire par le pilote, dit-il, qui va nous quitter dans 2 heures, et vous pouvez lui dire que vous êtes en sûreté et marié à la Brown Bess. » Je soupirai à ce mot de « marié ». Sur quoi, il dit en riant, « je vois que vous pensez à certaines jeunes personnes de Bradystown. »« Miss Brady va-t-elle bien, dis-je ? » Et c'est à peine si je pus faire cette question, car je pensais effectivement à elle. Et quoique je l'eusse oublié au milieu des dissipations de Dublin, j'ai toujours remarqué que l'adversité rend l'homme très affectueux. « Il n'y a plus que 7 Miss Brady maintenant, » répondit Fagin d'une voix solennelle. « Pauvre Nora ! Bonté divine, que lui est-elle arrivée ? » Je la voyais morte de douleur. « Elle a pris votre départ si fort à cœur qu'elle a été obligée de se marier pour se consoler. » « Elle est maintenant Mrs. John Quinn. »« Mrs. John Quinn ? Est-ce qu'il y avait un autre Monsieur John Quinn ? » dis-je, frappé de stupeur. « Non, c'est le même, mon garçon. Il s'est remis de sa blessure. La balle dont vous l'avez frappée ne pouvait pas lui faire de mal. Elle était faite d'étoupe. Pensez-vous que les Brady vous auraient laissé leur enlever d'un coup de pistolet 1500 livres de rente ? » Et alors Fagin me raconta qu'afin de m'écarter, car ce poltron d'anglais ne voulait pas consentir à se marier par peur de moi, on avait conçu le plan de ce duel. Mais vous l'avez certainement touché, Redmond, et avec un beau petit tampon d'étoupe. Et notre homme en fut si effrayé qu'il fut 1 heure à reprendre ses sens. Nous avons conté après coup l'histoire à votre mère, et elle a fait une jolie scène. Elle vous a expédié 10 lettres à Dublin. Mais je suppose qu'elle vous les adressait sous votre nom, qui n'était pas celui sous lequel vous les demandiez. « Le lâche, dis-je. » Quoique je l'avoue, j'eusse l'esprit fort soulagé de penser que je ne l'avais pas tué. Et les Brady de Castle Brady ont consenti à admettre un poltron comme celui-là dans une des plus anciennes et des plus honorables familles du monde. « Il a remboursé l'hypothèque de votre oncle, dit Fagin. » Il donne à Nora un carrosse à 6 chevaux. Il va vendre sa compagnie, qui va être achetée par le lieutenant de la milice, Ulick Brady. Ce lâche est la providence de la famille de votre oncle. Ma foi, le tour a été bien joué. Et alors il me conta en riant, comme quoi Mick et Ulick ne l'avaient pas perdu de vue, quoiqu'ils voulussent se sauver en Angleterre, jusqu'à ce que le mariage fût consommé et leur couple en route pour Dublin. « Avez-vous besoin d'argent, mon garçon ?» continua le bon capitaine. « Vous pouvez tirer sur moi, car j'ai eu un couple de 100 livres de maître Quinn pour ma part, et tant qu'elles dureront, vous ne manquerez de rien. » Et là-dessus il me fit asseoir et écrire à ma mère ce que je fis sur le champ, dans des termes pleins de sincérité et de repentir, disant que j'avais fait des folies, que je n'avais pas su jusqu'à ce moment à quelle fatale erreur j'étais en proie, et que je m'étais embarqué pour l'Allemagne comme volontaire. Et la lettre était à peine finie que le pilote annonça qu'il allait à terre, et il partit, emportant avec lui, de bien d'autres cœurs émus que le mien, nos adieux à nos amis de la vieille Irlande. Quoiqu'on m'ait appelé le capitaine Barry pendant des années de ma vie, et que j'aie été connu comme tel des premiers personnages de l'Europe, Cependant, je ferais aussi bien de confesser que je n'ai pas plus de droit à ce titre que tant d'autres qui le prennent, ni même à aucune épaulette ni signe de distinction quelconque, au-dessus du galon de laine de caporal. J'obtins ce grade de Fagin durant notre voyage vers l'Elbe, et je fus confirmé dans ce rang intera firma. Il m'avait été promis aussi une hallebarde, et ensuite peut-être un grade d'enseigne si je me distinguais. Mais il n'était pas dans les intentions du destin que je restasse longtemps soldat anglais, comme on le verra présentement. En attendant, notre traversée fut très favorable. Mes aventures furent racontées par Fagin aux autres officiers, qui me traitèrent avec bonté. Et ma victoire sur le gros porteur de chaise, on le sait, m'avait valu la considération de mes camarades de l'avant. Encouragé et fortement exhorté par Fagin, je fis résolument mon devoir. Et, quoique affable et de bonne humeur avec les soldats, je ne m'abaissai jamais jusqu'à frayer avec des gens de si bas étage, et entre eux ils m'appelaient généralement Milord. Je crois que ce fut le porteur de torche, un facétieux drôle, qui me donna ce titre, et je me sentais digne de ce rang autant qu'aucun pair du royaume. Il faudrait un plus grand philosophe et un autre historien que moi pour expliquer les causes de la fameuse guerre de 7 ans dans laquelle l'Europe fut engagée. Et, vraiment, son origine m'a toujours paru si compliquée, et les livres écrits là-dessus étaient si prodigieusement difficiles à comprendre que j'ai rarement été plus avancé à la fin d'un chapitre qu'au commencement. En conséquence, je ne fatiguerai pas mon lecteur de mes investigations personnelles à ce sujet. Tout ce que je sais, c'est qu'après que l'amour de Sa Majesté pour ses états de Hanovre l'eût rendu fort impopulaire dans son royaume d'Angleterre, quand M. Pitt était à la tête du parti anti-allemand, tout d'un coup, M. Pitt devenant ministre, le reste de l'Empire applaudit à la guerre autant qu'il la détestait auparavant. Les victoires de Dettingen et de Krefeld étaient dans toutes les bouches, et le héros protestant, comme nous appelions cet athée de vieux Frédéric de Prusse, était adoré par nous comme un saint, peu de temps après que nous avions été sur le point de lui faire la guerre, de concert avec l'impératrice reine. Maintenant, de façon ou d'autre, nous étions pour Frédéric. L'impératrice, les Français, les Suédois et les Russes étaient ligués contre nous, et je me souviens que lorsque la nouvelle de la bataille de Lissa nous arriva au fond de notre Irlande, nous la considérâmes comme un triomphe pour la cause du protestantisme, et illuminâmes et allumâmes des feux de joie, et eûmes un sermon à l'église, et célébrâmes le jour de naissance du roi de Prusse, à l'occasion de laquelle mon oncle se grisa, comme il faisait du reste en toute autre occasion. La plupart des malotrus enrôlés avec moi étaient comme de raison papistes. L'armée anglaise était pleine de ces païens-là qui ne manquent jamais dans notre cher pays. Et ces gens-là, ma foi, soutenaient les intérêts du protestantisme avec Frédéric, qui vous battait les protestants suédois et les protestants saxons, aussi bien que les Russes de l'Église grecque et les troupes papistes de l'empereur et du roi de France. C'était contre ces derniers que les auxiliaires anglais étaient employés, et nous savons que, la querelle soit ce qu'elle voudra, un Anglais et un Français sont assez disposés à en faire un sujet de bataille. Nous abordâmes à Cuxhaven, et je n'avais pas été un mois dans l'électorat que j'étais transformé en un grand jeune soldat de bonne tenue. Et ayant une aptitude naturelle pour les exercices militaires, je fus bientôt aussi ferré sur la manœuvre que le plus ancien sergent du régiment. Il fait bon, néanmoins, rêver de guerre glorieuse, dans un bon fauteuil chez soi, ou de les faire en qualité d'officier, entouré de gens comme il faut, somptueusement habillés et stimulés par des chances d'avancement. Mais ces chances ne sont pas pour les pauvres diables à galons de laine. Le drap grossier de nos habits rouges me rendait honteux quand un de nos officiers passait à côté de moi. J'avais le frisson dans l'âme lorsqu'en faisant des rondes, j'entendais leur voix joyeuse à la table de leur pension. Mon orgueil se révoltait d'être obligé de m'enduire les cheveux de farine et de suif au lieu d'employer la pommade qui convenait à un gentilhomme. Oui, mes goûts ont toujours été relevés et élégants, et j'avais mal au cœur de l'horrible compagnie dans laquelle j'étais tombé. Quelle chance d'avancement avais-je ? Aucun de mes parents n'avait de quoi m'acheter une commission, et j'entrais bientôt dans un tel découragement que j'aspirais après une action générale et une balle pour en finir, et que je fis vœu de saisir la première occasion de déserter. Quand je songe que moi, le descendant des rois d'Irlande, je fus menacé de coups de canne par un polisson qui sortait du collège d'Eton, quand je songe qu'il me proposa d'être son laquais et que, dans aucun de ces deux cas, je ne l'égorgeais, la première fois je fondis en larmes, peu m'importe de l'avouer, et je fus sérieusement tenté de me suicider, tant était grande ma mortification. Mais mon cher ami Fagin vint à mon aide, en cette circonstance, avec une consolation fort opportune. « Mon pauvre enfant, dit-il, il ne faut pas prendre ainsi la chose à cœur. Des coups de canne ne sont qu'une honte relative. Le jeune enseigne Fakenham a été fouetté lui-même à Eton il n'y a qu'un mois. Je gagerai que ses cicatrices ne sont pas encore guéries. Il faut reprendre courage, mon garçon. Faites votre devoir, conduisez-vous en gentleman, et il ne vous arrivera rien de sérieux. » Et je sus plus tard que mon champion avait pris fort sévèrement à partie M. Fakenham pour cette menace, et avait dit que de pareils procédés seraient considérés par lui à l'avenir comme une insulte personnelle, sur quoi le jeune enseigne était devenu civil pour le moment. Quant au sergent, je dis à l'un d'eux que si quelqu'un me frappait, quel qu'il fût, ou quelle que fût la peine, j'aurais sa vie. Et vraiment il y avait dans mon langage un air de sincérité qui les convainquit tous. Et tant que je restais au service de l'Angleterre, aucun rotin ne toucha les épaules de Redmond Barry. Effectivement, j'étais dans un tel état d'irritation que j'en avais tout à fait pris mon parti et que j'étais sûr, comme de mon existence, d'entendre jouer ma marche funèbre. Quand je fus fait caporal, mes maux diminuèrent en partie. Je mangeais avec les sergents par faveur spéciale et je leur payais à boire et perdais au jeu avec ces gredins l'argent que mon bon ami, M. Fagin, me fournissait avec ponctualité. Notre régiment, qui était en quartier aux environs de Stade et de Lunebourg, reçut bientôt l'ordre de marcher au sud vers le Rhin, car la nouvelle arriva que notre grand général, le prince Ferdinand de Brunswick, avait été défait. Non, pas défait, mais il avait échoué dans son attaque contre les Français, sous les ordres du duc de Breuil à Bergen, près de Francfort sur le Main, et avait été obligé de se replier. À mesure que les Alliés battaient en retraite, les Français se précipitaient en avant et faisaient une pointe hardie sur l'électorat de notre gracieux monarque en Hanovre, menaçant de l'occuper comme ils avaient déjà fait quand d'Estrées avait battu le héros de Culloden, le vaillant duc de Cumberland, et lui avait fait signer la capitulation de Closterthaven. Une marche sur le Hanovre causait toujours une grande agitation dans l'auguste sein du roi d'Angleterre. On nous envoya de nouvelles troupes et des convois d'argent pour nous et pour les soldats de notre allié, le roi de Prusse. Et quoique, en dépit de toute assistance, l'armée commandée par le prince Ferdinand fût de beaucoup plus faible que celle des agresseurs, cependant nous avions l'avantage d'avoir de meilleurs approvisionnements, un des plus grands généraux du monde, et j'allais ajouter, l'avantage de la valeur britannique. Mais moins nous parlons de cela, mieux cela vaut. Milord George Sackville ne se couvrit pas précisément de lauriers à Minden, sans quoi il aurait pu se gagner là une des plus grandes victoires des temps modernes. Se jetant entre les Français et l'intérieur de l'électorat, le prince Ferdinand prit sagement possession de la ville libre de Brême, dont il fit son dépôt d'approvisionnement et sa place d'armes, et autour de laquelle il rassembla toutes ses troupes, s'apprêtant à livrer la fameuse bataille de Minden. Si ses mémoires n'étaient pas caractérisées par leur véracité, et si je daignais prononcer une seule parole qui ne fût pas revêtue par ma propre expérience personnelle de la plus haute autorité, j'aurais pu aisément me faire le héros de quelques étranges et populaires aventures, et, à l'exemple des auteurs de romans, introduire mes lecteurs auprès des grands personnages de cette remarquable époque. Ces gens-là, je parle des romanciers, s'ils prennent un tambour ou un laquais pour leur héros, trouvent moyen de le mettre en contact avec les plus grands seigneurs et les plus grandes notoriétés de l'Empire, et je garantis bien qu'il n'en est pas un seul qui, en décrivant la bataille de Minden, n'eût fait comparaître le prince Ferdinand et Milord George Sackville et Milord Granby. Il m'eût été facile de dire que j'étais présent quand l'ordre fut donné à Lord George de charger avec la cavalerie et d'achever la déroute des Français, et lorsqu'il refusa de le faire, et gâta par là cette grande victoire. Mais le fait est que j'étais à 2 milles de la cavalerie quand eut lieu la fatale hésitation de sa seigneurie, et qu'aucun de nous autres, soldats de la ligne, ne sut ce qui s'était passé que lorsque nous en vîmes à causer du combat, le soir auprès de nos chaudrons, et à nous reposer après les labeurs d'une rude journée. Je ne vis ce jour-là personne d'un grade plus élevé que mon colonel et une couple d'officiers d'ordonnance passant à cheval dans la fumée. Personne de notre côté, c'est-à-dire. Un pauvre caporal, j'avais alors ce déshonneur, n'est pas généralement invité dans la compagnie des chefs et des grands personnages. Mais en revanche, je vis, je vous le promets, fort bonne compagnie du côté des Français, car leur régiment de Lorraine et de royale cravate nous chargèrent tout le jour. Et dans cette sorte de mêlée, tous les rangs sont assez également bien reçus. Je déteste la forfanterie, mais je ne puis m'empêcher de dire que je fis connaissance de très près avec le colonel des cravates, car je lui passai ma baïonnette au travers du corps et expédiai un pauvre petit enseigne, si jeune, si mince, si fluet, que j'aurais pu le dépêcher d'un coup de ma queue, je crois, au lieu de la crosse de mon mousquet avec laquelle je l'assommais. Je tuai de plus 4 autres officiers et soldats, et dans la poche du pauvre enseigne, je trouvai une bourse de 14 louis d'or et une bonbonnière en argent, et le premier de ces cadeaux me fut fort agréable. Si les gens voulaient faire leur récit de bataille avec cette simplicité, je crois que la vérité n'en souffrirait pas. Tout ce que je sais de ce fameux combat de Minden, excepté par les livres, est relaté ci-dessus. La bonbonnière d'argent de l'enseigne et sa bourse d'or, la face livide du pauvre diable quand il tomba, les vivats des hommes de ma compagnie quand j'allais le tuer sous un feu très vif, leurs cris et leurs imprécations quand nous en vîmes aux mains avec les Français. Ce ne sont pas là en vérité de très dignes souvenirs, et il vaut mieux passer dessus brièvement. Quand mon bon ami Fagin fut tué, un autre capitaine et son très cher ami se tourna vers le lieutenant Rawson et lui dit « Fagin est par terre. Rawson, voilà votre compagnie. » Ce fut là toute l'oraison funèbre qu'eut mon brave patron. « Je vous aurais laissé 100 guinées, Redmond, » ce furent les derniers mots qu'il me dit, « si je n'avais pas eu tant de guignons au Pharaon hier au soir. » Et il me serra faiblement la main. Et comme l'ordre était donné d'avancer, je le quittai. Quand nous revînmes à notre ancien poste, ce qui ne tarda pas, il était encore couché là, mais il était mort. Quelques-uns de nos gens lui avaient déjà arraché ses épaulettes et, sans aucun doute, lui avaient raflé sa bourse. Les hommes deviennent de tels voleurs et de tels gredins à la guerre. C'est fort bien aux gentilshommes de parler de l'époque de la chevalerie, mais songez aux brutes affamées qu'elles menaient, des hommes nourris dans la pauvreté, d'une ignorance complète, qu'on habituait à s'enorgueillir de verser le sang. Des hommes qui n'avaient pas d'autre abusement que l'ivrognerie, la débauche et le pillage. C'est avec ces affreux instruments que nos grands guerriers et monarques ont fait leur œuvre de meurtre dans le monde. Et tandis que, par exemple, nous admirons en ce moment le grand Frédéric, comme nous l'appelons, et sa philosophie, et son libéralisme, et son génie militaire, moi qui ai servi sous lui, et qui était pour ainsi dire dans les coulisses de ce grand spectacle, je ne peux l'envisager qu'avec horreur. Que de crimes, de misères, d'esclavage, pour composer ce total de gloire. Je me rappelle un certain jour, environ 3 semaines après la bataille de Minden, et une ferme dans laquelle entrèrent quelques-uns de nous, et comme quoi la vieille femme et ses filles nous servirent du vin en tremblant. Et comme quoi nous nous grisâmes, et que bientôt la maison fut en flammes. Et malheur à l'infortuné qui, plus tard, revint chez lui pour retrouver sa maison et ses enfants.